Je voudrais déjà commencer par une introduction pour mettre certaines choses au clair et éviter peut-être certaines idées fausses, réelles ou éventuelles. D'abord donc, lors du baptême de Clovis, nous avons en face l'un de l'autre la Gaule romaine et les Francs. La Gaule romaine, le pays des Gaules, se le rappeler, est un pays chrétien. Le christianisme est répandu partout, il suffit de se rappeler Saint-Martin Ier, archevêque de Tours, qui a parcouru beaucoup de provinces pour déraciner le paganisme. La plupart des évêchés est fondée à l'époque. Les institutions romaines ont été christianisées. Et devant l'anarchie politique de l'époque, la seule autorité morale, religieuse, sociale et politique est celle des évêques. Les Francs n'ont donc pas apporté le christianisme, bien au contraire. En revanche, le paganisme est encore fort répandu dans les campagnes. Les institutions romaines, même christianisées, conservent un fond païen, notamment dans la mainmise de l'empereur sur les affaires chrétiennes, sur les affaires religieuses, allant jusqu'à la suggestion très forte des évêques, même en matière religieuse. Ce que l'on verra encore dans le césaropapisme des empereurs byzantins en Orient ou des empereurs germaniques en Occident. Et les barbares qui envahissent l'Empire romain sont ariens, d'où en Gaule, je rappelle que l'arianisme est une hérésie, d'où en Gaule les persécutions des Burgondes et surtout les fortes persécutions des Visigoths. Il suffit de rappeler Saint Quintien, évêque de Rodez, qui fut chassé par les Visigoths, et qui mourut finalement évêque de Clermont le 13 novembre 527, c'est-à-dire aujourd'hui. Avant la victoire franque, non seulement l'Église n'est donc pas encore entièrement victorieuse, mais elle est menacée de destruction par l'hérésie arienne, qui, vaincue dans l'Empire, est revenue par les peuples barbares. En face, il y a les Francs. Les Francs sont un peuple barbare au sens gréco-romain, c'est-à-dire ne parlant ni grec ni latin. Ils sont païens et peuvent être un danger pour l'Église. Ils sont d'une brutalité toute païenne et le demeureront en partie même après leur conversion. Leurs invasions s'accompagnent évidemment de pillages. En revanche, les Francs sont subjugués par la civilisation gallo-romaine et chrétienne, beaucoup plus élevée que la leur. Ce sera d'ailleurs l'une des causes de leur conversion. S'ils pillent, ils ne détruisent pas, au moins de façon systématique, à la différence des Huguenots au XVIe siècle ou des révolutionnaires au XVIIIe. Et ensuite, Francs et Gallo-Romains reconstruiront ce qui aura été détruit par les guerres. S'ils sont païens, ils n'ont pas d'hostilité préconçue contre l'Église catholique, à la différence des Ariens. C'est pourquoi les évêques chercheront très tôt leur alliance. Childéric Ier, qui régna de 458 à 481, et son fils, Clovis Ier, avant sa conversion même, entretiendront d'excellents rapports avec les évêques. Pensons d'ailleurs à cette lettre de Saint Rémy, archevêque de Reims, écrivant à Clovis Ier à son avènement et lui disant « Montrez-vous plein, après lui avoir dit qu'il prenait la suite de son père, il lui dit « Montrez-vous plein de déférence pour vos évêques » et recourez toujours à leurs avis. Si vous vous entendez avec eux, votre pays s'en trouvera bien. Si les Francs sont moins bien ordonnés que les Romains, ils sont aussi moins matérialistes et plus purs qu'eux, et donc moins barbares qu'on ne dit. Et pour cela, très sensibles à la beauté morale du christianisme. Et ils feront une synthèse de la civilisation gallo-romaine, de la religion catholique et des institutions franques. Si les Francs sont encore païens, ils n'ont jamais persécuté l'Église, à la différence des Romains. C'est pour cela que le prologue de la loi salique, qui a dû être composé vers 555-557, c'est-à-dire sous les fils de Clovis, dit ceci: « Ce sont eux, les Francs, qui, après avoir professé la foi et reçu le baptême, ont enchâssé dans l'or et dans les pierres précieuses les corps des saints martyrs que les Romains avaient brûlés par le feu, mutilés par le fer ou livrés aux dents des bêtes féroces. Malheureusement, ce n'est pas inexact. Alors, à ce propos, je voudrais dire que l'on a voulu magnifier les Romains en traitant les Gaulois et les Francs de barbares. On a voulu aussi magnifier les Gaulois en traitant les Romains de sanguinaires immoraux. On a voulu magnifier les Francs en traitant les Gallo-Romains de vaincus incapables. En réalité, il faut rendre à César ce qui est à César, c'est-à-dire la civilisation gréco-romaine, rendre à Dieu ce qui est à Dieu, c'est-à-dire à l'Église catholique, rendre Gaulois ce qui est aux Gaulois, et aux Francs ce qui est aux Francs. La société française est en fait une synthèse harmonieuse de tout cela. Et je parle évidemment de la société française authentique d'avant la Révolution, et non de la société révolutionnaire actuelle qui précisément renie l'héritage. Alors que fut l'événement du baptême de Clovis ? Au moment où l'Empire romain, avec ses institutions païennes très fortes, mais plus ou moins christianisées, s'effondre, au moment où des peuples barbares hérétiques menacent de détruire l'Église, les Francs, d'un paganisme moins organisé, donc ayant rapidement disparu des institutions, indemnes de toute hérésie et de toute persécution, favorables à l'Église avant même leur conversion, sont le premier de ces peuples dits barbares à passer entièrement sous le joug de Jésus-Christ et sauvent par là l'Église catholique, dont ils vont devenir les principaux défenseurs contre l'ennemi extérieur, tout en formant une nation dont l'édifice va être jusqu'à la Révolution un modèle de compénétration de la religion dans l'État et la société par l'alliance de ses rois, de ses évêques et de ses peuples. C'est cette société chrétienne que nous allons voir commencer à se former, du moins je vais essayer. La France connut 3 siècles de grandeur et d'apogée, et ce furent 3 grands siècles chrétiens. Le siècle de Charlemagne, qui concerne notre exposé, celui de Saint-Louis, celui de Louis XIV. Il y a une difficulté sans doute à la compréhension de ce que je vais dire. C'est que de nos jours, même les catholiques traditionnalistes raisonnent souvent, malheureusement, même sans le vouloir, en moderne, et ont du mal à comprendre 2 choses. Alors j'espère que vous le comprendrez. Comprendre 2 choses. D'abord, le caractère absolu de la vérité chrétienne, qui ne peut souffrir l'erreur, même dans la législation. Même si la charité chrétienne cherche la conversion des errants. Et la seconde chose, c'est que l'unité de la société chrétienne, où autorités politiques et religieuses sont en telle union, que l'on voit sans anomalie la participation des évêques au conseil des princes et celle des princes catholiques aux décisions de l'Église, dans le respect des pouvoirs respectifs, cela va sans dire. Alors je ne dirai pas tout, parce que je n'en finirai pas. De fait, je n'ai pas tout à fait fini de préparer tout ce que j'aurais voulu préparer. Et puis parce que il faut insister peut-être sur certaines choses plus que sur d'autres, je n'ai pas l'intention en particulier de parler de tout ce qui concerne l'Église à l'intérieur d'elle-même, les décisions des conciles, concernant le dogme, concernant la discipline de l'Église, mais plutôt de parler donc des rapports entre l'Église et la société, la christianisation de la société par l'Église, et puis la participation de la société à l'Église. Alors d'abord, je parlerai de la manifestation officielle de la catholicité à partir de cette époque. Ensuite, de la défense royale de la foi, et enfin des mœurs. Manifestation officielle de la catholicité. La catholicité du prince apparaît en particulier sur ses insignes, et je pense en particulier à ces sceaux. La croix, qui se trouvait déjà sous les empereurs chrétiens, bien sûr. Mais la croix apparaît sur les sceaux royaux, au moins sous Clovis IV, vers 692-693, c'est-à-dire au moins, on n'a pas à l'heure actuelle de sceaux qui subsistent antérieurs. Et se trouve aussi sur les monnaies. Ce signe se retrouvera toujours. Le roi Pépin le Bref, en 750, encore maire du palais du roi Childéric III, a un sceau qui représente le Christ au nimbe crucigère. Donc il porte la croix sur le nimbe. C'est le seul exemple, cependant. Saint Charlemagne, sous son règne, apparaît en 769 l'expression « Christe protege carolum regem francorum » sur les sceaux, j'entends. On trouvera « Christ protege Charles, le roi des Francs ». Il y aura des variantes, tous ses successeurs. On aura « Jésus na dedei », notamment « Jésus, fils de Dieu » au lieu de « Christ ». Au lieu de « protéger », on aura « conserva »,« conserver »,« adjuva »,« aider »,« défender »,« défendre », mais c'est toujours la même formule. Le dernier exemple est de Charles III, le Simple, en 913. Une autre formule sera employée sous les Capétiens, mais dans les monnaies. La formule dominée, Salvum fac regem, Seigneur, sauvez le roi. Le terme Gratia Dei Rex, roi par la grâce de Dieu, avec la variante aussi Misericordia Dei Rex, roi par la miséricorde de Dieu, apparaît sous Charles II le Chauve en 841. Et subsistera jusque sous Charles X. Et ce terme sera aussi utilisé sur les monnaies et est employé dans les actes par la chancellerie royale depuis Pépin le Bref. La formule, très belle, Gloria sit Christo Regi et Victoria Carolo. Gloire soit au Christ roi et victoire à Charles. Est utilisée sous le seul Charles II le Chauve, mais d'autres formules seront utilisées plus tard sous les Capétiens, mais sur les monnaies, notamment la formule célèbre Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat, le Christ vint, le Christ règne, le Christ commande, ou encore Benedictum sit nomen Domini nostri Dei Jesu Christi, béni soit le nom de notre Seigneur Dieu Jésus-Christ. Toutes deux donc utilisées jusqu'à Louis XVI. Sur les monnaies également, outre certaines de ces formules, on trouve le baptistère ou le temple, qui fait référence soit au baptistère de Reims, soit au sanctuaire de Saint-Martin de Tours, soit à Saint-Pierre de Rome où eut lieu le couronnement impérial de Saint-Charlemagne. Avec la formule Christiana religio, la religion chrétienne, au moins sous Saint Charlemagne et son fils Louis Ier le Pieux, et sans la formule ensuite. Mais on a des représentations de ce genre de monnaie encore jusque sous Philippe II Auguste. On pourrait parler aussi de l'étendard. Clovis se fera précéder à la bataille de Vouillé par la chape de Saint-Martin qui lui servira d'étendard et qui accompagnera les armées françaises jusque sous Hugues-Capet. Et Saint-Charlemagne fera placer l'archange Saint-Michel sur son propre étendard comme patron et prince de l'Empire des Gaules. La catholicité du prince se manifestera aussi par le sacre royal. Je ne parle pas ici du problème du baptême de Clovis, qui nous a été brillamment présenté l'année dernière par M. Essertel, mais plutôt de ses conséquences. Il s'agit ici de la sacralité du prince. Alors qu'en est-il depuis Clovis? J'y insiste un petit peu, puisque c'est une matière un petit peu controversée. Saint Avit, archevêque de Vienne, écrivant à Clovis après son baptême en 497, parle de l'onction sainte qu'il a reçue. Alors, s'agit-il du sacre royal ou de l'onction baptismale? On pourra, à la rigueur, contester. Saint Grégoire, archevêque de Tours, écrivant son Histoire des Francs au VIe siècle, dit que Clovis fut baptisé et ensuite oint du Saint-Crème. Là, Saint Grégoire distingue bien, mais est-ce le sacre royal ou est-ce la confirmation qui est dû suivre le baptême? Bon, là aussi, on pourrait contester. Saint Grégoire Ier, le grand pape, donc qui a régné aux environs de l'an 600, dans son commentaire du premier livre des rois, à propos du sacre royal de Saül, dit « Ce qui est signifié par cette onction, c'est ce qu'encore maintenant on voit réellement dans la Sainte Église, car celui qui est élevé au sommet du pouvoir reçoit le sacrement de l'onction. » Et encore plus loin, « Que la tête du roi soit donc ointe. » Bon, à propos du terme sacrement de l'onction, le terme sacrement avait autrefois un sens beaucoup plus large que maintenant. C'était la traduction du terme mysterion grec, et donc ça pouvait aussi bien désigner les mystères de la foi chrétienne, comme la Trinité, ça désignait les sacrements au sens où on appelle sacrement à l'heure actuelle, ça désignait aussi les sacramentaux, bon, donc ça pourrait très bien désigner éventuellement le sacre royal. Mais, donc en fait, ça désigne effectivement le sacre royal, mais cela a-t-il eu lieu en France? Est-ce que Saint Grégoire parle de la France? Évidemment, on pourrait contester, ce n'est pas dit. Childebrand, frère de Charles Martel, et ancêtre probable des Capétiens, continuateur de la chronique dite de Frédéguer, vers 768, dit, à propos du sacre de son neveu, Pépin le Bref, « Le Très-Haut Pépin, par l'élection de tous les Francs au trône royal, avec la consécration des évêques et l'hommage des grands, est, comme l'ordre l'exige de toute antiquité, élevé à la royauté avec la reine Bertrade. » Donc, consécration des évêques, comme l'exige l'ordre de toute antiquité. De même, la chronique de Moissac, à la fin du 8e siècle, par l'onction sainte, suivant l'usage des ancêtres, le pape Étienne oignit de l'huile d'onction le très pieux prince Pépin, roi des Francs. Et de même, les annales des Vinards, de la même époque, disent. En 754, le pape Étienne donna l'onction sacrée, suivant l'ancien usage, à Pépin, très pur roi des Francs. Aussi donc, usage des ancêtres, ancien usage. Et cet ancien usage est-il celui de la France? Est-il celui des Visigoths? Est-il celui de l'ancien Israël? Ce n'est pas explicite. Là encore, on pourrait contester. Encore que toutes ces sources soient convergentes. C'est quand même un peu difficile de contester tant de sources, même si aucune n'est décisive toute seule. Seulement, il y a des sources décisives. Les annales du royaume des Francs, qui sont de la même époque, la fin du 8e siècle, disent « Suivant l'usage des Francs, Pépin fut élu roi et oint. Secundum morem francorum. Electus est atregem et undus. » Les annales de Lorche de la même époque disent « En 752, Pépin est élu roi et suivant l'usage des Francs, il reçoit l'onction des mains du Saint-Archevêque Boniface. » Oui, Pépin a été sacré deux fois, ce qui explique qu'il a été sacré par Saint Boniface et ensuite par le pape deux ans plus tard. Incmar, archevêque de Reims, dans son sermon lors du sacre de Charles II le Chauve à Metz en 869, dit, affirme « Clovis fut baptisé » Ouin et sacré roi. Et Flodoard, archiviste de l'église de Reims, dans son histoire de l'église de Reims vers 950, fait dire à Saint Rémy, je l'ai baptisé et je l'ai sacré roi par l'onction du Saint-Crème. Or, les deux premières de ces sources datent des décennies qui ont suivi immédiatement les deux sacres de Pépin le Bref. Elles n'ont donc pu inventer sous peine d'être contredites, à commencer par le roi lui-même. Si, comme d'aucuns disent, le sacre avait été créé par Pépin pour se légitimer face au dernier roi mérovingien qui n'aurait pas été sacré. Or, personne n'a contredit, et le roi lui-même non plus. C'est donc que les rois mérovingiens étaient sacrés, ce qui est d'ailleurs affirmé explicitement par divers auteurs, il est vrai postérieurs, à propos de tel ou tel roi précis. Quant à Clovis, faut-il penser que l'onction de la confirmation qui a suivi le baptême a eu la signification d'un sacre royal, comme le pense Jean de Pange? Sans vouloir être catégorique, cela me semble peu conforme au sens obvie des textes. En revanche, il est certain évidemment que tout a suivi et a dû, malgré la solennité extérieure, être assez simple. Qu'en est-il de la Sainte Ampoule ? Là encore, ce n'est pas tellement à cause du sacre de Clovis lui-même, qui a été traité l'année dernière, mais plutôt de ses conséquences. L'archevêque de Reims, Hincmar, prêchant au même sacre de Charles II le Chauve à Metz en 869, parle devant les évêques et affirme que Clovis fut baptisé, oint et sacré roi dans la métropole de Reims avec un crème pris du ciel dont nous avons encore. Pas de protestation des autres évêques. Dans sa vie de Saint-Rémy, le même pontife dit: soudain apparaît, voltigeant à portée de sa main, aux yeux ravis et étonnés de l'immense foule, une blanche colombe tenant en son bec une ampoule d'huile sainte, dont le parfum d'une inexprimable suavité embauma toute l'assistance. Or, aucun évêque, même archevêque, ne proteste, malgré la rivalité entre métropolitains, je pense notamment avec le métropolitain de Sens. Et Hincmar affirme utiliser, pour avoir écrit cela, les antiques chroniques de son Église. Là aussi, personne ne proteste en disant que c'est faux. C'est donc que cette croyance et ces chroniques sont bien connues depuis au moins un siècle, vers 750. C'est-à-dire qu'à cette époque, ces chroniques ne sont pas nouvelles et remontent bien à 700, voire 650. Et je m'appuierai notamment là-dessus sur la démonstration qu'en a faite Dom Mabillon à propos de Saint-Rémy. De plus, une plaque d'ivoire attribuée au 7e siècle, représentant le baptême de Clovis, montre une colombe tenant une fiole que prend Saint-Rémy. C'est donc une croyance remontant bien au 6e siècle. C'est-à-dire moins d'un siècle après l'événement, et n'aurait pu là aussi être inventé sans provoquer de protestation. Il ne faut pas croire nos ancêtres plus naïfs que nous. Quelles sont les cérémonies ? Il est évident qu'au début, les cérémonies durent être assez simples, mais comprenaient au moins l'onction de l'huile sainte de la Sainte Ampoule, ou peut-être de quelques autres huiles miraculeuses, comme celle reçue par Saint Martin du ciel et conservée à Marmoutier, et qui a pu servir au sacre des rois de Paris, lors des différentes divisions du royaume entre frères et cousins, comme d'ailleurs cette huile a servi plus tard au sacre de Henri IV. Cette onction, mêlée avec le Saint Crème, comme pour les évêques, se faisait à la tête, comme pour les évêques, comme on en a la preuve dès le sacre de Charles II le Chauve en 869 à Metz. Le serment à l'Église précède à partir du sacre de Charles II le Chauve que je viens de citer. On demande alors le consentement du peuple par acclamation depuis le sacre de Pépin le Bref en 752 à Soissons. Et on bénit l'épée, le sceptre et la couronne depuis au moins le second sacre de Pépin le Bref en 754 à Saint-Denis. Après quoi le roi, revêtu du manteau royal et de la couronne, reçoit l'obédience des grands. D'autres cérémonies durent se développer en même temps, mais on n'a pas la preuve avant les temps capétiens, non plus que du toucher des écrouelles, bien que ce pouvoir semble avoir été accordé à Clovis. Aussi, on n'a pas la preuve qu'il est utilisé avant les temps capétiens, mais bon, ça ne prouve pas. Le roi est donc assimilé à un quasi-évêque, non seulement dans les cérémonies, mais aussi dans les discours des évêques. Les évêques du Concile d'Orléans, 511, parlent même de l'âme sacerdotale de Clovis. Ceux du Concile de Francfort, en 794, disent que Saint Charlemagne est roi et prêtre. Quels furent les rapports des rois et des évêques ? Par le baptême de Clovis, les évêques des Gaules ont fait une alliance avec le roi franc qui sera scellé au concile d'Orléans en 511 et qui durera indéfectiblement jusqu'à Charles X. Si les évêques soutiennent dans l'ensemble le pouvoir royal et en sont même le meilleur soutien, Il est rare qu'ils ne conservent pas leur indépendance apostolique. Citons par exemple Saint Grégoire de Tours, défendant énergiquement l'archevêque Saint Prétexta de Rouen au Concile de Paris en 577 face aux accusations de la reine Frédégonde et du roi Chilpéric Ier, ou Saint Léger d'Autun s'élevant contre les abus du maire du palais de Neustrie et Broin et maltraité et assassiné par lui, et non pas comme d'aucuns ont dit parfois, assassiné par la reine Sainte-Bathilde. C'est pas parce que Ébrouin était ministre de la reine Sainte-Bathilde, régente, que c'est elle qui l'a fait assassiner. Si les rois, dès Clovis Ier, intervinrent dans les élections épiscopales, il n'y eut pas plus de mauvais choix royaux que de mauvaises élections populaires auparavant. Il y a évidemment de mauvais évêques, qui sont brutaux, comme les laïcs de l'époque, et de saints évêques en grand nombre. Les rois convoquent de nombreux conciles. Ce sont eux qui, dans presque tous les cas, prennent l'initiative des conciles. Mais ensuite, les évêques ont toute liberté de discuter, et les rois n'interviennent que pour confirmer ensuite, éventuellement, par un édit royal. Saint Charlemagne ira plus loin, il établira lui-même des capitulaires, donc des édits, en matière de foi ou de discipline ecclésiastique. Mais toujours après avoir largement consulté les évêques et suivi leurs avis. Joseph de Maistre a pu dire « Les évêques ont fait le royaume de France. Les évêques ont construit cette monarchie comme les abeilles construisent une ruche. » Même les rois les moins bons ont été des défenseurs de l'Église. Et il faut penser que le pire des souverains catholiques est encore meilleur, quels que soient ses défauts, que le meilleur des souverains laïcistes, quelles que soient les qualités de celui-ci. Tous les rois utilisent les évêques et les abbés dans leurs conseils, dans leurs provinces, et Saint Charlemagne les utilise même comme missi dominici, c'est-à-dire comme envoyé du roi, pour veiller à la bonne marche temporelle et spirituelle du royaume. Parmi tous ces évêques qui ont servi de conseillers, en royaume, on peut citer Saint Rémy, archevêque de Reims, conseiller de Clovis Ier, Saint Germain, évêque de Paris, conseiller de Saint Gildebert Ier, Saint Nizier, archevêque de Lyon, conseiller du même, Saint Grégoire, archevêque de Tours, conseiller de Chilpéric Ier, Saint Arige, archevêque de Lyon, conseiller de Thierry II, de la reine Brunehaut, Saint Ouen, archevêque de Rouen, conseiller de Clovis II, de la reine Sainte-Bathilde, Saint Léger, évêque d'Autun, conseiller de Childéric II, Saint Boniface, archevêque de Mayence, là on passe déjà au Carlovingien, conseiller des maires du palais Charles Martel et de ses fils Saint Carloman et Pépin le Bref, avec qui il réforma le clergé, entré en décadence en même temps que le pouvoir des derniers rois mérovingiens entra lui aussi en décadence. Saint Crodegan, évêque de Metz, conseiller du même, avec qui, grâce à qui il réforma du même, c'est-à-dire de Pépin le Bref, avec qui il réforma les chanoines. Saint Fulrade, abbé de Saint-Denis, conseiller de Pépin le Bref également. Saint Alcuin, abbé de Saint-Martin de Tours, conseiller de Saint-Charlemagne. Saint Benoît, abbé d'Agnane, conseiller de Louis le Pieux, avec qui il réforme les moines. Saint Agobard, archevêque de Lyon, conseiller du même, avec qui il consolide la liturgie romaine, introduite en France par Pépin le Bref et Saint-Charlemagne. Alcmar, archevêque de Reims, conseiller de Charles II le Chauve et théoricien de la royauté catholique, mort en odeur de sainteté. Adalbéron, encore, archevêque de Reims, conseiller de Capet, grâce à qui d'ailleurs Capet est parvenu au trône. Et on en trouvera dans les conseils du roi jusqu'à Charles X inclus. J'aurais pu en citer beaucoup d'autres qui ont fait des apparitions plus ou moins, ou qui sont restés longtemps dans les conseils des princes. Ce n'est qu'une infime quantité. Et même les capitulaires, c'est-à-dire les décisions royales de Saint Charlemagne, comportent des exhortations morales et religieuses, comme celle-ci, « Aime ton prochain comme toi-même, heureux les pacifiques, car ils sont appelés les enfants de Dieu, évite le péché pour fortifier ta foi ». Enfin, dès Clovis, les rois francs seront en relation avec la papauté et finiront sur les Carlovingiens par recevoir le titre de patrice des Romains en 754, puis d'empereur des Romains en 800, qui fortifiera leur rôle de protecteur du Saint-Siège, lequel cependant est indépendant du titre et subsistera même lorsqu'ils perdront le titre impérial. Les papes ont souvent appelé les rois francs à leur aide contre les Ostrogoths ou contre les Lombards. C'est ainsi que le pape Vigile fait appel au roi Saint-Philibert Ier et Tibère Ier, et ce dernier vainquit successivement en Italie les Ostrogoths et les Byzantins. Lui et son fils guerroyèrent assez longtemps en Italie, une quinzaine d'années. Pélage II, le pape Pélage II fit appel en 589 à Childebert II, qui fit une expédition contre les Lombards. Saint Grégoire II en 722 et ensuite Saint Grégoire III firent appel au maire du palais Charles Martel, qui se contenta de m'originer le roi Lombard, qui était d'ailleurs devenu catholique à l'époque. Saint Étienne III en 753 vint même trouver en France le roi Pépin le Bref, qui fit une descente en Italie et vainquit les Lombards. Saint Paul Ier demanda encore, Pépin cette fois-ci se contenta d'agir diplomatiquement. Adrien Ier, en 772, en appela à Saint-Charlemagne, qui soumit définitivement les Lombards en 773-774. Et plusieurs fois encore, les rois francs aideront les souverains pontifes, notamment en 800, Saint-Charlemagne rétablira Saint-Léon III, chassé par une insurrection, on en parlera. Et en 877, Charles II le Chauve vint au secours de Jean VIII contre les Sarrasins. Ce sont les rois francs qui donneront l'Italie centrale au souverain pontife Pépin le Bref en 754 et Saint-Charlemagne en 774. Donc, voilà pour la manifestation officielle de la catholicité de la société française. Maintenant, parlons de la défense royale de la foi. D'abord, la protection contre les hérésies. Saint David, archevêque de Vienne, écrivant à Clovis, donc juste après son baptême, lui dit « Votre foi, c'est notre victoire », c'est-à-dire la victoire de l'Église. Et de fait, Clovis combattit tout de suite contre les Ariens. « C'est avec peine, dit-il, que je vois ces Ariens posséder une partie des Gaules. » D'où la victoire de Vouillé sur les Visigoths en 507, qui lui permit de conquérir toute l'Aquitaine. À la veille de cette bataille, même bien avant, je l'ai oublié un fait, Clovis avait demandé l'aide de Saint Martin de Tours avant son baptême, et il redemande cette aide de Saint Martin de Tours qui lui a permis son baptême avant la bataille de Vouillé. Et dans la veille de la bataille de Vouillé, une lumière sortant du tombeau de Saint-Hilaire de Poitiers, ancien adversaire de l'arianisme, lui prédit sa victoire. On pourrait citer plusieurs cas, mais je voudrais citer trois cas principaux d'intervention des rois francs dans la défense de la foi. D'abord, Saint-Gildebert, premier fils de Clovis, et le problème des trois chapitres. Alors, c'est une affaire très compliquée que je vais essayer de résumer, sinon vous n'allez rien comprendre à l'intervention du roi. L'empereur, c'est très compliqué parce que c'est pas seulement une question de doctrine, c'est aussi une question de prudence et de charité. L'empereur d'Orient, Justinien Ier, dans l'espoir de ramener les hérétiques monophysites, il y avait en notre Seigneur non seulement une seule personne, la divine, mais aussi une seule nature, la divine, la nature humaine n'étant plus ou moins qu'une apparence à ce moment-là. Donc l'empereur Justinien Ier décréta en 544 un édit condamnant l'hérésie opposée des Nestoriens, pour qui il y avait en notre Seigneur non seulement deux natures, divine et humaine, mais aussi deux personnes divines et humaines, et donc deux êtres totalement distincts, ce qui faisait que la Sainte Vierge n'était mère que de l'homme et non de Dieu. Et par ce même décret, il somma le pape et les évêques d'y souscrire. À vrai dire, ces deux hérésies avaient depuis longtemps été condamnées par les conciles d'Éphèse en 531 et de Chalcédoine en 451. Et de Chalcédoine en 451. Et la condamnation de Justinien portait plus précisément sur trois textes, dits trois chapitres. L'un de Théodore de Mopsueste, nestorien notoire, les deux autres d'Ibas d'Édesse et de Théodoré de Cyre, qui avaient un temps combattu les adversaires des nestoriens pour des incompréhensions de termes. Puis, après explication, avaient accepté la condamnation du nestorianisme et avaient été reconnus orthodoxes par le concile de Chalcédoine. Cette condamnation par Justinien était donc malvenue, ambiguë, injuste, et pouvait porter tort à l'autorité du concile de Chalcédoine, même si les textes incriminés n'étaient pas indemnes de reproches. Le pape Vigile, personnage ambitieux qui était parvenu de façon violente au souverain pontificat grâce aux Byzantins, commence par refuser cependant sa signature. Sous la pression impériale, la donne en 548, puis se rétracte en 553, alors que le deuxième concile œcuménique de Constantinople, réuni au même moment par Justinien et Vigile, mais boudé finalement par Vigile, qui se trouvait pourtant à Constantinople à l'époque, alors que ce concile donc renouvelle la condamnation des trois chapitres, ce que finalement accepte Vigile en 554, l'année suivante. Donc le pape a passé son temps à changer d'avis. En Orient, il y eut quelques protestations contre cette acceptation par le pape. Mais en Occident, elles furent presque unanimes, car on craignait, non sans raison, dans cette condamnation sans cause, une attaque indirecte du concile de Chalcédoine. En Italie, il y eut des émeutes, et des conciles condamnèrent cette condamnation. En France, le roi Saint-Childebert Ier, inquiet, fut plus modéré. Dès 549, il convoque un concile à Orléans qui renouvelle la condamnation du monophysisme, condamné par le concile de Chalcédoine, et celle du nestorianisme, condamné par le concile d'Éphèse. Puis l'archevêque d'Arles, saint Aurélien, membre du concile, écrit en 549 au pape Vigile pour demander des explications, qui arrivent tardives et vagues. Il pousse donc le roi Saint-Gildebert à écrire, ce qu'il fait plusieurs fois au pape Pélage Ier, lequel, comme diacre, avait poussé Vigile à refuser la condamnation des trois chapitres, puis avait, à la mort de Vigile, changé d'avis et avait été nommé pape pour cette raison par Justinien. Le roi lui demande donc de faire une profession de foi explicite au concile de Chalcédoine et de s'expliquer sur l'affaire. Pélage fait cette profession de foi orthodoxe en 557. Mais pour explication de l'affaire des trois chapitres, explique que ces chapitres ne regardent pas la foi et que s'il a changé d'avis, c'était pour suivre les évêques. Bien que l'explication fût peu convaincante, le roi et les évêques jugèrent que l'affaire n'était pas suffisante pour polémiquer et s'en contentèrent. Saint-Gildebert avait eu à la fois le souci de la foi et le respect du rôle du pape et des évêques, à la différence du césaropapisme de Justinien, que nous avons vu alors notamment, par ailleurs bien intentionné, Justinien était catholique. Deuxième intervention royale. Chilpéric et le modalisme. Le roi Chilpéric Ier, homme bizarre, mêlé de cruauté et de sensualité d'une part, et de piété, de culture littéraire et théologique de l'autre, est plus malheureux lorsque vers 580, il se mêle de résoudre les hérésies trinitaires et christiques et écrit un petit traité qu'il fait lire en sa présence à Saint Grégoire, archevêque de Tours, et où il déclare qu'il ne faut point prononcer le nom de personne en Dieu, c'est parler de personne en parlant de Dieu, et que le Père est le même que le Fils et que le Saint-Esprit. C'était ressusciter l'hérésie de Stabilius, qui datait du IIIe siècle, ou modalisme. L'évêque eut du mal à retenir de manifester sa répugnance pendant la lecture. Et le roi s'emporta. L'évêque lui fit un petit catéchisme verbal sur la Trinité, mais le roi, de sa brusquerie encore existante malgré le baptême, déclara qu'il obtiendrait bien l'approbation de plus savants que l'archevêque de Tours. Quelques jours ensuite, donc, le roi Chilpéric fait lire le texte à Saint Sauve, évêque d'Albi. Celui-ci ayant également répudié une telle doctrine, le roi abandonna aussitôt son opinion. Chilpéric avait été donc piqué dans sa vanité d'auteur. Il n'avait sans doute pas les connaissances théologiques suffisantes pour pénétrer dans des controverses théologiques si complexes, mais il lui avait suffi de deux évêques pour abandonner son opinion. La différence, là aussi, du césaropapisme. Troisième intervention, celle de Saint Charlemagne, qui réunit en 794 un concile à Francfort. Ce concile s'occupe notamment de trois choses. Après un échange de lettres entre Saint Charlemagne et le pape Adrien Ier, il condamne l'adoptionnisme de Félix, évêque d'Urgel, hérésie venue d'Espagne, qui affirmait que Jésus était un homme adopté par Dieu le Père par l'union à Dieu le Fils. Félix, d'ailleurs, se convertit finalement en 800 au concile d'Aix-la-Chapelle devant Saint Charlemagne. Deuxième sujet du concile. Le concile rendit l'insertion du filioque, c'est-à-dire le Saint-Esprit qui procède du Père et du Fils, et qui était insertion déjà faite en Espagne, il rendit cette insertion obligatoire dans le credo pour lutter contre les tendances hétérodoxes des Byzantins à ce sujet. Les papes Adrien Ier et Saint Léon III, voulant être conciliants, obligeaient bien les orientaux à la croyance, mais non à l'insertion du filioque dans la liturgie, afin de ne pas heurter les Grecs, très à cheval sur l'absence de changement dans la liturgie. Il y eut des échanges de lettres assez vives entre Saint Charlemagne et Saint Léon III, qui maintinrent chacun leur position. Ce sera bien plus tard, à l'époque capétienne, que le credo sera adopté dans la liturgie par Rome et avec lui le filioque. Troisième sujet, le concile s'occupa des images. L'hérésie iconoclaste qui brisait les images des saints, qui avait ravagé l'Orient, avait finalement été condamnée par le second concile œcuménique de Nicée en 787. Et le pape Adrien Ier en avait envoyé le texte à Saint Charlemagne. Mais certains termes ambigus du concile, qui à certains endroits parlaient d'adoration des images, termes qui chez les Grecs correspondaient à l'attitude de prosternation envers les supérieurs, attitude très habituelle chez eux. Ambiguïté donc des termes accentuée par la traduction latine. Ces termes ambigus firent croire à Saint Charlemagne que le concile approuvait un culte de latrie, c'est-à-dire un culte véritablement divin, des images. D'où une incompréhension et là aussi un échange de lettres entre Saint Charlemagne et le pape Adrien Ier, qui ne comprit pas la raison de cette incompréhension du souverain et ne fit donc rien pour l'éclaircir. Si bien que Saint Charlemagne écrivit tout un traité théologique de haut niveau, dit livre carolin, qui fut approuvé par le concile de Francfort, où finalement donc le second concile de Nicée est condamné et où il est prescrit de vénérer les images saintes sans les adorer, ce qui est finalement la doctrine catholique. Et comme c'était la doctrine pontificale, le pape Adrien Ier approuva finalement le concile de Francfort. Protection de la religion. On pourrait aussi, il est bon de voir quel était le rôle de protection sur un point particulier contre les Juifs. À ce sujet, il faut dire d'abord que sauf lors de leur révolte, et je rappelle que la dernière s'était terminée en 135, les Romains n'ont pas pris de mesures contre les Juifs, qui étaient même plutôt protégés par les empereurs. Les premières mesures contre eux furent prises par les empereurs chrétiens, Constantin Ier, pour ne parler que d'un empereur ayant régné sur les Gaules. Donc cette législation est nouvelle. Elle est faite pour éviter aux Juifs toute influence et tout pouvoir sur les chrétiens au risque d'apostasie de ces derniers. Les conciles de Clermont en 535, réunis par Tibère Ier, de Mâcon en 581, réunis par Saint-Contran, et de Paris en 614, réunis par Clotaire II, ainsi que l'édit de Clotaire II de la même année, interdisent aux Juifs toute fonction publique, civile ou militaire, surtout financière, afin de leur enlever toute influence. Les conciles d'Orléans de 538 et de 541, réunis par Saint-Childebert Ier et Tibère Ier. L'édit de Saint-Childebert Ier qui a suivi, les conciles de Mâcon de 581, déjà cités, et de Clichy de 626, réunis par Clotaire II, interdisent aux Juifs d'avoir des esclaves chrétiens et prévoient les moyens de les racheter. Comme c'est plus ou moins bien appliqué, les évêques, puis le roi, prennent sous leur protection les esclaves chrétiens que leurs maîtres juifs maltraitent ou veulent contraindre à l'apostasie. Les conciles d'Orléans, 533, réunis par Saint-Childebert Ier, Thierry Ier et Clotaire Ier, de Clermont en 535, déjà cité, d'Orléans en 538, déjà cité, vont jusqu'à prohiber les mariages entre chrétiens et juifs. Là aussi, c'est dangereux pour la partie chrétienne. Et bien plus, ce même concile d'Orléans de 538 et celui de Mâcon de 581, déjà cité, vont jusqu'à interdire les contacts entre chrétiens et juifs, surtout les repas communs, que ne fait-on pas qu'on ne ferait pas, en dehors d'un repas. Pour éviter tout affrontement entre chrétiens et juifs en raison des provocations juives, le concile d'Orléans de 541, déjà cité, l'édit de Saint-Philibert Ier, déjà cité, et le concile de Mâcon de 581, également cité, défendent aux Juifs de paraître en public pendant le temps de la Passion et celui de Pâques. À cause de la Semaine Sainte, etc. Ces mêmes décisions obligent les Juifs à donner des marques de respect aux clergés et notamment de ne pas s'asseoir devant un prêtre avant d'y avoir été invité. L'on cherche même à convertir les Juifs, ce qui est d'ailleurs la meilleure protection pour les chrétiens. Et l'on n'hésite pas à prendre des mesures contre ceux qui s'opposent aux conversions des leurs. Saint invite premier, évêque. Les Juifs, exclus de toute fonction publique et ne pouvant cultiver la terre, faute de main-d'œuvre chrétienne, se réfugient à cette époque dans le commerce. Par miséricorde, et pour leur permettre de vivre, Saint Charlemagne, son fils lui premier le Pieux, et le fils de ce dernier, Charles II le Chauve, accorderont des privilèges aux marchands juifs, les prenant sous leur protection. C'est à la fois une miséricorde à leur égard et un moyen de les faire servir à quelque chose. D'où une juiverie, je précise que juiverie signifie quartier juif, on ne m'accuse pas de je ne sais quoi, d'où une juiverie fort active, principalement à Lyon, mais aussi à Paris, Bordeaux, Narbonne et autres grandes villes. Mais cela ne retranche rien de la législation contre les Juifs. Les conciles de Meaux et de Paris en 845-846 renouvellent même les interdictions de toute fonction publique. C'est en somme une liberté surveillée. Comme ceux-ci cependant en profiteront et abuseront par une richesse accumulée et l'emploi de l'usure, il faudra de nouveau sévir et les expulsions des Juifs hors du royaume reprendront sous Philippe Ier en 1096. Protection aussi contre les païens, voire conversion des païens. Saint Avit, archevêque de Vienne, écrivant à Clovis, toujours juste après son baptême en 497, lui dit « Offrez une part du trésor de la foi » qui remplit votre cœur à ces peuples assis au-delà de vous et qui, vivant dans leur ignorance naturelle, n'ont pas encore été corrompus par les doctrines perverses, c'est-à-dire par les hérésies, en particulier à l'arianisme. Donc, les Francs vont s'y employer envers les Germains, envers les Islamites, les Saxons et les Normands, principalement. Envers les Germains, tous les Francs ne s'étaient pas convertis avec Clovis, et les rois francs conquirent de nouveaux territoires, Allemagne, Bavière, Thuringe. Tous ces pays furent évangélisés grâce à l'appui constant et zélé des rois, notamment Thierry Ier et Tibère Ier son fils, fils et petit-fils de Clovis, et certains de leurs successeurs. Plus tard, Saint Grégoire II et Saint Grégoire III, les papes donc, dirent de Charles Martel, maire du palais, qu'il avait le plus contribué après Dieu à la conversion de 100 000 idolâtres par l'assistance qu'il donna à Saint Boniface en Germanie, c'est-à-dire principalement Frise, Hesse et Thuringe, et qui fonda évêché et monastère et mourut martyrisé par des frisons encore païens en 754. Les deux papes placent donc Charles Martel avant même Saint Boniface dans le mérite de ses conversions. Saint Boniface avait agi avec le double soutien de la papauté d'une part et la royauté franque, notamment par les maires du palais Charles Martel et ses deux fils, Saint Carloman et Pépin le Bref. Ensuite, les islamites, là, il a fallu employer la guerre. On ne pratique pas uniquement. C'était une défense surtout guerrière. Charles Martel vint les islamites près Poitiers en 732 lors de l'une de leurs incursions. Et près Narbonne en 737. Pépin le Bref leur reprend la Septimanie, actuelle Bas-Languedoc, en 759. Saint Charlemagne conquiert la Catalogne puis la Navarre à partir de 778. Et on fit la marche d'Espagne. Il y rétablit les évêchés disparus. Et le principal adversaire des Maures sera Saint Guillaume, duc d'Aquitaine. Rares furent les conversions des musulmans. On verra un cas, notamment tout à l'heure, ça a été très rare. Et en Orient, Saint Charlemagne se fit le protecteur des chrétiens d'Orient par son alliance avec le calife Haroun al-Rachid en 797, qui lui donna les clés du Saint-Sépulcre et de Jérusalem en 800. Et le protectorat officiel sur Jérusalem en 806. Ce qui fait que Saint Charlemagne, Louis Ier le Pieux, son fils, Charles III le Simple, feront de nombreux dons à la Terre Sainte et rachèteront même des chrétiens captifs. Ensuite, les Saxons, qui sont des Germains, mais on verra le cas est très particulier. Saint Charlemagne a dû mêler la guerre et l'évangélisation. Saint Charlemagne, dans les livres carolins, écrit vers 591, dit « Nous à qui la tâche a été confiée par Dieu de guider l'Église à travers les flots déchaînés du siècle. » Et écrivant à Saint Léon III, « Notre tâche est, avec l'aide de la bonté divine, de protéger en tout lieu par les armes la Sainte Église du Christ contre les incursions des païens et des infidèles. » Et là, appliquer véritablement cela. Il combattit donc non seulement les Sarrasins, mais les Saxons, peuple guerrier et très attaché au paganisme. Les Saxons font des incursions pillardes dans le territoire franc, si bien qu'en 772, il y a une première guerre. Saint Charlemagne détruit dans cette guerre l'arbre Irminsul qui est censé soutenir la voûte céleste. Nouvelles incursions saxonnes en 773, 775, 776, d'où une deuxième guerre en 775, une troisième en 776. Saint Charlemagne exige alors leur baptême. De nombreux Saxons, par famille et troupes entières, se font baptiser, signe pour eux aussi, comme pour Saint Charlemagne, de leur soumission et de leur engagement à ne plus piller les monastères. Conversions, donc, qui n'ont point été si forcées que cela, si l'on considère les habitudes de l'époque, mais évidemment encore fragiles. En 778, Widukind, chef saxon non soumis, ravage de nouveau le territoire franc, pillant églises et monastères. Si bien que c'est la guerre. En 780, la Saxe entière, à la suite de cela, est annexée. Saint Charlemagne confie l'évangélisation à Willehad, futur évêque de Brême, qui obtient de nombreuses conversions. Si bien qu'en 782, Widukind provoque une nouvelle révolte et massacre les missionnaires et les Saxons qui refusent d'apostasier. Aussi la répression sera-t-elle sévère. 4500 Saxons seront décapités en raison de la violation de la foi jurée. et pour marquer les esprits barbares des Saxons. On sait qu'on a affaire à des barbares, que si on leur donne 2 mois de prison ou 1 an de prison, ça suffira pas, recommenceront après. Hein. Et le capitulaire des pays saxons, établi donc par Saint-Charlemagne, édicte des peines graves, non seulement contre les révoltes, mais aussi contre la violation des préceptes de l'Église, notamment baptême des enfants ou jeûne du carême, et contre les pratiques païennes, sacrifices humains ou crémation des défunts notamment. Mais pour conserver la miséricorde, ceux qui se seraient spontanément présentés à un prêtre pour la confession et la pénitence, pour des crimes graves, je rappelle, la pénitence pouvait être publique, cela donc serait absous de la peine civile. Et Willehalt reprend l'évangélisation. Cependant, Widukind reprend la guerre en 783-785. Mais les Saxons sont cette fois-ci complètement vaincus. Widukind fait sa soumission et spontanément se fait baptiser en 785, ayant pour parrain Saint-Charlemagne. Sa conversion fut certainement si sincère qu'il est honoré sur les autels et il ne prit aucune part à la dernière révolte païenne en 793, qui, après une longue et terrible guerre, aboutit à la soumission définitive de la Saxe en 799. Autant il avait fallu être rude dans une guerre difficile avec un peuple rude, autant après 799, Saint-Charlemagne recourra à la douceur, adoucissant les punitions, confiant des charges aux nobles saxons et poursuivant l'évangélisation, au point que l'union aux francs installée dans la Saxe fut dorénavant parfaite. Enfin, il y a les Normands. Normands en Scandinavie, Normands en France. En Scandinavie d'abord, Louis Ier le Pieux, fils de Saint-Charlemagne, convertit le roi danois du Jutland, Harald III. Celui-ci, en effet, réfugié en France, s'y fait baptiser en 826 avec pour parrain Louis le Pieux et rentre en son royaume avec Saint-Anchaire, qui deviendra archevêque de Hambourg et de Brême et commencera l'évangélisation difficile et très longue qu'il faudra recommencer plusieurs fois du Danemark et de la Suède grâce à l'appui constant de Louis Ier le Pieux et d'un des fils de celui-ci, Udo le Germanique. En France, ce sont les invasions des Normands qui commencent à cette époque. Cette nation infidèle dont l'hymne de la Toussaint demande d'être délivrée encore maintenant, ça figure dans l'hymne de la Toussaint. Charles II le Chauve, Louis III, Eudes, qui avait défendu Paris avec l'évêque Gosselin et l'abbé de Saint-Germain-des-Prés, Eble, combattent ces invasions normandes. Charles III le Simple trouve le moyen de défendre à la fois la chrétienté et d'assurer l'évangélisation de ses païens. En 911, en effet, par le traité de Saint-Clair-sur-Epte, le chef normand Rollon accepte de se faire baptiser et reçoit le duché de Normandie et la fille du roi Gisèle en mariage. Remarquez bien qu'il y a un dernier moyen d'évangélisation, c'est le mariage. Cela a joué principalement, en tout cas directement, avec les Visigoths et avec les Anglo-Saxons. Avec les Visigoths d'abord, la princesse Clotilde, fille du roi Clovis Ier, épouse en 527 Amalaric, roi des Visigoths d'Espagne, à rien. Mais fut persécutée pour sa foi. Elle dut être délivrée par la guerre par son frère Saint-Childebert Ier en 531 et mourut peu après d'épuisement. Elle peut donc être considérée comme martyre. La princesse Ingonde, fille du roi Sigebert Ier, épouse Saint-Herménégilde, roi des Visigoths, associé à son père Léovigilde, née de sa première épouse catholique, Théodora, sœur des archevêques de Séville, Saint-Léandre et Saint-Isidore. Son époux, donc, Herménégilde, elle l'amène en 579 à la foi catholique, avec l'aide de Saint-Léandre, son oncle. Mais Galsvint, deuxième épouse de son père et très arienne, persécuta la reine Ingonde, puis obtint de Léovigilde la mise à mort de son fils en 585, et son épouse mourut peu après de chagrin. Ce fut d'entre-temps que la princesse Richilde, fille du roi Chilpéric Ier, épousa en 584 Récarède, futur roi des Visigoths, deuxième fils de Léovigilde. Et le roi Léovigild de lui-même se repentit du meurtre de son fils aîné. Mais n'osant se convertir lui-même, il confia à sa mort en 586 son second fils Récarède à saint Léandre. Et celui-ci donc le convertit en 589. Il a fallu beaucoup de persévérance pour la conversion des Visigoths, mais on y est arrivé. Envers les Anglo-Saxons, la princesse Berthe, fille du roi Caribert Ier, épouse saint Ethelbert, roi du Kent en Angleterre, alors païen. Elle convertit son mari en 597 avec l'aide de saint Augustin, premier archevêque de Canterbury. La princesse Claude Esvinte, fille du roi Sigebert Ier, sœur aînée donc de l'épouse de saint Herménégilde. Épouse saint Sébert, roi d'Essex en Angleterre, également païen, qu'elle convertit en 604 avec l'aide de saint Mélie, premier évêque de Londres, disciple de saint Augustin de Canterbury. C'est de ces deux conversions que provint la conversion des autres royaumes anglo-saxons. Sans compter la princesse Giselle, donc, qui épousa le duc normand, comme nous avons dit. Ensuite, quelles conséquences dans les mœurs? Parce que tout cela, bon, on pourrait dire que ça se passe au niveau extérieur, pas si extérieur que cela. Quelles conséquences dans les mœurs? On a pour source saint Grégoire de Tours, dans son Histoire des Francs, qui est à manier avec précaution pour les temps anciens, mais qui est documenté pour la période contemporaine qu'il a connue, impartial et honnête, un récit très vivant. Ceux qui s'intéressent à l'histoire pourraient facilement lire. On a ensuite la chronique dite de Frédéguer, qui complète la précédente pour le dernier temps mérovingien, mais elle est moins sûre et très partiale, comme pour l'occasion de le dire au moins une fois. Puis toute une série d'annales pour l'époque carlovingienne. À partir de toutes ces sources et d'autres donc, on peut savoir que les Francs, même christianisés, sont encore rudes. Meurtres, guerres même fraternelles, rapines, duplicité, parjures, luxures, voire des tentations de polygamie. Tentatives même, je veux dire, de polygamie. C'est le règne des passions que l'Église mettra des siècles à maîtriser. Il faudra, à vrai dire, le Concile de Trente. Alors, je citerai principalement des cas visibles, des cas princiers, royaux, mais c'est malheureusement, parce qu'on les connaît mieux, mais c'est malheureusement valable partout. Cas de violence et de parjure, par exemple. Mondéric, prince franc, fils du dernier roi des Francs de Cologne, Clodéric, dont les terres avaient été annexées par Clovis Ier, et ancêtre probable des Carlovingiens, avait rendu service au roi Thierry Ier, donc fils de Clovis, qui a régné de 511 à 534. Il lui avait rendu service en Auvergne. Et il en espérait le gouvernement, comme récompense, le gouvernement de l'Auvergne. Mais Thierry Ier donna le gouvernement de l'Auvergne à Arévisil. Furieux, Mondéric se révolte. « Pourquoi supporterais-je un maître ?» disait-il. « À quel titre Thierry serait-il mon roi? Quel droit a-t-il sur cette province qui soit meilleur que le mien? Voyez de quelle illustre race je suis, moi aussi. » Thierry Ier, qui n'est pas la loyauté absolue peut-être, mais qui est dans l'ensemble un prince modéré, cherche un arrangement. Mais Mondéric, c'est d'autant plus remarquable que Thierry Ier est né païen. C'est le fils aîné de Clovis, né de sa première épouse. Il s'est converti en même temps que son père. Thierry Ier, donc modéré, cherche un arrangement. Mais Mondéric ne lui fait pas confiance et refuse. Thierry Ier envoie donc le combattre à Régisil, à qui avait été confié le gouvernement de l'Auvergne. Mondéric est assiégé à Vitry. Au bout d'une semaine, Régisil vient le trouver pour négocier. « Que t'obstines-tu » lui dit-il. « Tu seras vaincu et tué, et tous ceux qui t'auront suivi. Tandis que, si tu le veux, je suis prêt à te jurer devant Dieu qu'aucune vengeance ne sera tirée contre toi ni les tiens. » Mondéric hésite. Régisil l'entraîne à l'église, il fit le serment sur les saints évangiles de lui laisser la vie sauve pourvu qu'il se rendît. et Mondéric accepte. Il ordonne donc ouvrir les portes. Mais les soldats d'Arégisil, à peine entrés, sur un signe de leur maître, se jettent sur Mondéric. Malheureusement pour le traître parjure Arégisil, ce ne fut pas aussi facile que prévu. Mondéric comprend vite, par les premiers coups, et d'un revers d'épée tranche la tête d'Arégisil. Suite un véritable carnage réciproque, d'où il semble d'ailleurs que Mondéric put sortir vivant en s'enfuyant. Cas de luxure, cas limite, enfin, précisément je prends des cas limites. Il faudrait pas dire que tout est comme ça. Le roi Caribert Ier, qui a régné de 561 à 567, petit-fils de Clovis, épouse d'abord Ingoberge, princesse franque, en 558. Mais il a des concubines, et notamment Méroflède, fille d'un simple quart d'heure de laine. La reine pensa la chasser facilement en remontrant au roi son humble origine. Elle fit travailler le père sous les fenêtres du château. Le roi, étonné, demanda à la reine qui était ce locteux. Et à elle de lui répondre qu'il était normal qu'elle le reçût puisque le roi recevait sa fille. Mal en prit à la reine, Caribert, en colère, la renvoie elle-même en 564, trouvant apparemment une raison de nullité de mariage car le clergé ne réclamera pas son retour. Et décide d'épouser Méroflède. Puis peu après, il rencontre la sœur de celle-ci, Marcovef, d'ailleurs religieuse. La trouve à son goût et l'épouse également, trouvant apparemment un prêtre complice ou naïf. Les évêques s'indignent et l'évêque de Paris Saint-Germain l'excommunie. Aussi, quand l'année suivante la reine Méroflède meurt, le roi renvoya sa sœur Marcovef. Puis il épouse en 566 Théodechilde, de noble extraction, qui lui survivra. Cas de meurtre, là aussi c'est vraiment le cas limite, cas extrême. Frédégonde fut certainement de toutes les reines de France la plus criminelle et la plus odieuse. De noble origine, probablement issue du roi franc de Cologne, elle devint la suivante de la pieuse reine Audovaire, épouse du roi Chilpéric Ier, qui régna de 561 à 584, c'est l'affaire du précédent. Mais Frédégonde était ambitieuse. Lors du baptême du sixième enfant royal, la princesse Childasvint, en 563, en l'absence du père, la marraine n'arrivait pas. Or l'Église, je le rappelle, refuse de mêler parenté naturelle et spirituelle et interdit donc aux parents d'être parrains ou marraines de leur enfant, encore maintenant. Jusqu'en 1917, cela rendait même nul le mariage postérieur entre compère et commère, c'est-à-dire entre père et marraine ou parrain et mère. Mais à l'époque, cela rendait nul, à l'époque donc mérovingienne, j'ai trouvé plusieurs cas en effet, cela rendait nul même le mariage déjà. Perfidement donc, Frédégonde, qui connaissait très bien la législation canonique, conseille à la reine de tenir elle-même son enfant sur les fonts baptismaux à défaut d'un marraine, qui est absente donc, et surprend ainsi la simplicité de la reine. L'évêque baptisant, soit par complicité, soit par inadvertance ou ignorance, accomplit le baptême. Au retour du roi Chilpéric, Frédégonde l'aborde et lui dit « Dieu soit loué de ce qu'une fille est née au roi notre Seigneur ». Mais avec qui monseigneur couchera-t-il cette nuit, car la reine, ma maîtresse, est aujourd'hui ta commère et marraine de ta fille Hildasvinte. Le roi exile donc l'évêque baptisant. Le mariage est annulé. La reine Audovaire se retire dans un monastère et Frédégonde devient la maîtresse du roi. Celui-ci, cependant, épouse en 567 la fille du roi Wisigoth Athanagilde, la princesse Galsvinte. Sœur de l'épouse de son frère Sigebert, la reine Bruno. La nouvelle reine Galsvinte finit par mal supporter la cohabitation avec Frédégonde. Aussi celle-ci poussa-t-elle le roi à s'en débarrasser et la reine Galsvinte fut étranglée pendant son sommeil l'année suivante. Et Chilpéric épousa Frédégonde. De là naîtra une guerre souvent renouvelée entre les deux frères. Bruno demandant réparation et Frédégonde haïssant sa rivale. et commença aussi toute une série de meurtres par les soins de Frédégonde et la naïveté de Chilpéric. Elle fit poignarder son beau-frère Sigebert en 575, qui exigeait réparation. Elle se débarrasse de tous les enfants nés de la reine d'Auvergne. Mérové fut trouvé, donc l'un des fils, Mérové fut trouvé mystérieusement gisant dans son sang en 577. Clovis est accusé par elle, autre fils, donc Clovis est accusé par elle de complot contre son père, et poignardé par ses sicaires en 580, et elle annonce au fils, au roi, que son fils s'est suicidé, ce qu'il croit naïvement. Et pour plus de sûreté, la même année, des émissaires sont envoyés massacrer la pieuse reine Audovaire dans son couvent. En 584, le roi Chilpéric lui-même fut poignardé. On a accusé Frédégonde, qui aurait cherché à cacher son adultère, que le roi s'apprêtait à découvrir. Cela n'est pas certain, mais à vrai dire, on ne prête qu'aux riches. Elle essaya d'assassiner son jeune neveu, le roi Childebert II, et la reine de celui-ci, la reine Bruno, de même que son beau-frère, le roi Saint-Contran. Nombre d'autres personnages de rang non princier, dont je vous évite l'énumération, périrent aussi. Même un évêque, l'archevêque de Rouen, Saint-Prétexta, poignardé en 586, en plein office pontifical de Pâques à la cathédrale. Elle mourut cependant dans son lit en 597. Et par la haine qu'elle avait envers Bruno, sa belle-sœur, haine qu'elle inculqua à son fils, le roi Clotaire II, elle fut responsable du supplice que celui-ci lui fit subir en 613. À l'époque carlovingienne, les mœurs, tout en restant rudes, sont déjà plus raisonnables. Somme toute, il ne faut pas s'indigner quand même. C'est mal, c'est entendu. Mais il faut du temps à la nature pour être réformé par la grâce. Il n'y avait pas tellement longtemps que le peuple était baptisé. Le peuple froid était baptisé. Et puis, on ne fait plus aujourd'hui. À l'époque, on défendait la foi et on interdisait les meurtres d'enfants, en fin de mère. Et ces mœurs rudes n'ont pas empêché la sainteté de fleurir. Parmi les rois, plusieurs sont sur les autels. Saint Childebert Ier, régnant de 511 à 558, prince pieux, fondateur de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, en l'honneur de Saint-Vincent à l'époque, pacifique. Lors du meurtre des enfants de son frère Clodomir, il fut réticent, ce qui n'est déjà pas mal, surtout par rapport à son frère Clotaire. Il chercha à obtenir la grâce de l'un des deux enfants et il joua finalement un rôle passif dans la possibilité d'éviter la chose. C'est lui qui partit la défense de sa sœur Clotilde, donc épouse du roi Wisigoth à Malaric, comme on a dit, persécuté pour sa foi, et il régla sagement la querelle religieuse des trois chapitres en France, comme on a vu. Saint-Gontran, régnant de 561 à 593, prince pieux et débonnaire, fondateur du monastère Saint-Marcel de Chalon-sur-Saône, généreux envers les pauvres, qui soignait les malades et priait des nuits entières pour leur guérison. Il joua un rôle de modération entre les rois de Neustrie, son frère Chilpéric Ier et son neveu Clotaire II, et ceux d'Austrasie, c'est-à-dire son frère Chilbert Ier et son neveu Childebert II. On a eu tout à l'heure un petit aperçu de leur guerre. Et comme en définitive c'était ces derniers, c'est-à-dire les rois d'Austrasie qui étaient les plus loyaux, et que lui-même n'avait pas de fils, il légua à Childebert II ses états. Saint Sigebert III, régnant de 634 à 656, prince pieux et pacifique, ennemi du luxe, fondateur de l'abbaye Saint-Martin de Metz, qui œuvra pour christianiser les paysans demeurés païens. Je ne l'ai pas cité tout à l'heure, je n'aurais plus cité. Saint Dagobert II, son fils, régnant de 675 à 679, prince pieux, ayant longtemps vécu en un monastère, eut à lutter contre des leux de révoltés qu'il assassinèrent en raison de son attachement à la justice chrétienne, ce pourquoi il est honoré du titre de martyr. Il s'était voué en 675 à Notre-Dame en qualité de vassal et de serf. Pour ce qui est des Mérovingiens, il faut dire aussi que Clovis Ier jouit d'une réputation de sainteté. Il fut même tenu pour saint à sa mort par saint Rémy. Et dans une certaine mesure, Dagobert Ier m'a beaucoup discuté. Il aurait pu disputer. Saint Charlemagne, protecteur du Saint-Siège, introducteur de la liturgie romaine en France, soldat qui protège l'Église contre les païens, au point d'apparaître comme le premier des croisés et le modèle des rois francs avant la canonisation de Saint-Louis, qui avait pour livre de chevet la cité de Dieu de Saint-Augustin, fréquentait les offices de l'Église le jour et la nuit, et composa le Veni Creator. On a cherché à le desservir en utilisant les termes de son chroniqueur Eginhard qui parle de ses successives épouses et concubines. En oubliant que dans le langage d'autrefois et pendant longtemps encore, le mot concubine n'avait pas le sens actuel, mais celui d'épouse de rang inférieur, plus ou moins ce qu'on appellerait aujourd'hui épouse morganatique, donc avec grand nom royal. Il fit quelques miracles de son vivant, notamment à Paderborn, en guérissant le pape Saint Léon III, à qui les révoltés de Rome avaient crevé les yeux et coupé la langue. Un roi de ses descendants fut encore sur les autels, Saint Swithibold, roi franc de Lorraine, prince pieux, qui eut à lutter contre les grands révoltés, contre des grands révoltés, en raison de son attachement à la justice chrétienne, et mourut dans un combat. Et même parmi les reines, Sainte Clotilde, épouse de Clovis Ier, qui convertit son mari et concilia les querelles de ses fils, elle avait fort à faire. Sainte Ultrogothe, épouse de Saint Gildebert Ier, fondatrice avec son mari de l'abbaye Saint-Germain-des-Prés et de l'hôtel Dieu de Lyon. Sainte Radegonde, épouse de Clotaire Ier, qui préféra le cloître au trône. Sainte Bathilde, épouse de Clovis II et régente de son fils Clotaire III, qui fit cesser notamment l'habitude que certains parents avaient gardée du paganisme de laisser périr leurs enfants plutôt que de payer pour eux au fisc l'impôt de capitation, l'impôt par tête. Elle a fait cesser cette habitude. Sainte Hildegarde, épouse de Saint Charlemagne, sage administratrice et grande aumônière, ou Sainte Richarde, épouse de Charles II le Gros, fondatrice de l'abbaye d'Andelot. Toutes ces frênes sont presque toutes des femmes de tête. Elles n'ont pas toujours eu des situations très faciles, en particulier celles qui ont été régentes, qui ont gouverné. Et même la reine Bruno, épouse de Sigebert Ier, est elle-même bien au-dessus de la mauvaise réputation que lui a faite la partiale chronique de Frédéguerre. Je ne sais pas quelle réputation il a chez vous, ça dépend des gens. Tout selon qu'on a été impressionné par Frédéguerre ou non. En fait, princesse wisigothique devenue catholique, ayant formé avec son époux un couple uni et chaste, tutrice désintéressée de son fils Hildebert II, de ses petits-fils Tibère II et Thierry II, et de son arrière-petit-fils Sigebert II, conciliatrice, quoi qu'on en ait dit, de ses deux petits-fils qui se firent la guerre malgré elle, ayant une vie privée exemplaire, là aussi malgré les calomnies de la même chronique, clémente même envers les assassins envoyés par sa belle-sœur Frédégonde, libérale envers les malheureux, elle a finalement, par sa fermeté, sauvé l'autorité royale. Tout ce qu'on peut lui reprocher, c'est le défaut de ses qualités, c'est-à-dire d'avoir parfois été trop autoritaire envers les leudes et les évêques. L'accusation d'avoir fait assassiner l'archevêque de Vienne, Saint Didier, ne repose sur rien. Il s'agit en fait d'un excès de zèle d'un subordonné, et en réalité, la reine n'a jamais attenté à la vie d'aucun évêque, encore moins, comme le disent les mêmes accusations, est-il vraisemblable qu'elle ait été poussée à se faire par l'archevêque de Lyon, Saint-Arige ? Elle a été louée à plusieurs reprises par le pape Saint Grégoire Ier le Grand, qui savait pourtant ce qu'il faisait, et Saint Grégoire de Tours ne parle d'elle qu'avec respect. À l'époque mérovingienne, l'on relève quelque 400 saints, dont beaucoup dans la maison royale. On pourrait encore citer sainte Théodoshilde, fille de Clovis Ier, abbesse près de la ville de Sens, saint Cloud, fils du roi Clodomir, ermite près Paris, ou sainte Énimie, fille de Clotaire II, abbesse près de la ville de Mende. Les saints évêques et les moines pullulent à cette occasion. J'en ai cité déjà un certain nombre, je vous en citerai encore. Et même les criminels sont pieux. Perdant ses deux fils en 580, la reine Frédégonde y voit une punition du ciel pour les nouveaux impôts et fait brûler les nouveaux rôles par son époux le roi Chilpéric. Entrant dans Paris en 576, alors que les rois francs avaient fait serment qu'aucun n'y entrerait, Chilpéric Ier se fait précéder de reliques pour se protéger de la colère des saints qui avait été invoquée comme garant du serment. Donc, petit à petit, les mœurs s'améliorent. Il fallut aussi, en même temps, extirper le paganisme des mœurs. Car le paganisme a mis du temps à disparaître. L'on en voit encore des traces dans certaines régions à l'heure actuelle qui n'ont pas disparu depuis l'époque. Lorsque la reine sainte Radegonde fait mettre le feu à un temple, seul son calme en impose aux païens furieux. Lorsque saint Gall met le feu au temple de Cologne, les païens le poursuivent et ne trouvent son salut qu'en se réfugiant au palais du roi Thierry II. Mais il y a aussi les chrétiens qui ont conservé des pratiques mayennes, des pratiques païennes. Le jeudi, chômé en l'honneur de Jupiter. Les débauches le 1er janvier en l'honneur du dieu Janus. La consultation de deux vins. Le culte à des arbres ou à des sources. Le bain superstitieux au solstice d'été. Tout cela aussi, il faudra l'exterminer. Même au 8e siècle, encore assez tardivement, des prêtres en Thuringe, donc région évidemment relativement récemment chrétienne, immolent à Jupiter avant de célébrer la messe. Et les gens sont crédules. En 591, un demi-fou se prétend le Christ et se promène avec une femme qu'il appelle Marie. Il multiplie les sortilèges et emmène une grande troupe de gens séduits. Il exige d'être adoré et pille villes et campagnes, massacrant le clergé, jusqu'au moment où se présente devant la ville du Puy. L'évêque Saint-Aurel II lui envoie une députation de gens résolus qui, faisant mine de l'adorer, le transperce de leur épée et la troupe se déborde. Il y avait des évêques de taille. Là, il y a un mélange, là encore, de christianisme et de superstition. Saint Césaire, archevêque d'Arles, mort en 542. Saint Éloi, ancien ministre de Clotaire II de Dagobert Ier, devenu évêque de Noyon et mort en 660. Saint Vandrille, ancien ministre de Dagobert Ier, devenu abbé de Fontenelle en Normandie, l'actuelle abbaye de Saint Vandrille, mort en 668. Saint Omer, évêque de Thérouanne, mort en 670. Saint Amand, évêque de Maastricht, mort en 679. Saint Ouen, ancien ministre de Dagobert Ier, devenu archevêque de Rouen et mort en 684, on pourrait en citer quantité d'autres, mais on voit ça dans leur vie, passent leur temps à prêcher contre les païens, pour extirper les traces de paganisme. Saint Boniface, archevêque de Mayence, mort en 754, abat l'arbre sacré de la Hesse, dédié au dieu Thor, assimilé à Jupiter. Et Thor ainsi vaincu, beaucoup de païens se convertissent. Il y avait tellement à faire que, à l'instigation de Saint Césaire, archevêque d'Arles, le concile de Vaison, en 529, autorise les prêtres et les diacres à prêcher, car les évêques ne peuvent suffire. On prend quantité de mesures, on profite de la coïncidence des fêtes. On établit des sanctuaires en l'honneur des saints à la place des forêts ou des sources sacrées. Dans un lac du Gévaudan, chaque année, on venait y jeter maints objets en offrande au cours de festivités païennes. L'évêque de Mende y construit un oratoire à Saint-Hilaire, évêque de Mende, et y établit un pèlerinage. Les saints ermites, les monastères établis dans les lieux retirés, en défrichant, favorisent le recul des pratiques païennes, liées notamment à la forêt. Ce fut une lutte très dure et très longue. Tous les conciles, on est frappé pour cela, tous les conciles sont préoccupés d'extirper les restes du paganisme. Encore au XIe siècle, au début des Capétiens. Concile d'Orléans, 533, d'Orléans encore, 541, d'Éluse, en 551, de Tours, en 567, d'Auxerre, en 573, de Clichy, en 626, pour ne citer que les principaux. Des édits royaux de Saint-Gildebert Ier, Saint-Gontran, Gildebert II, Louis Ier le Pieux, pour là aussi ne citer que les principaux. On n'a pas idée de l'ambiance de l'époque, beaucoup de sainteté, mais aussi beaucoup de traces de paganisme qui oblige donc à extirper le paganisme. L'extirpation même du paganisme aide à l'assainissement des mœurs, mais là aussi il faut des décisions de concile, décisions royales. Un édit de Saint-Gildebert Ier interdit le mariage entre proches parents et entre le ravisseur et celle qui l'a séduite. Un édit de Clotaire II défendit de marier les jeunes filles sous la contrainte, comme quoi certains bruits peuvent être que certaines personnes ont couru de leur actuel, comme quoi les pauvres jeunes filles étaient motivées. Ce n'est pas forcément vrai. Des capitulaires de Saint-Charlemagne et de Charles de Le Chauve soutiennent la sainteté du mariage et aussi la bonne tenue du clergé, car cela va de pair. De façon plus générale, c'est à l'époque mérovingienne que se multiplient les paroisses rurales, fondées par les évêques ou les grands propriétaires terriens. Et les rois carlovingiens s'efforcent que chaque village ait son église, son curé, sa paroisse, qui nous semble évident à l'heure actuelle, encore que notre église paraisse. Mais il a fallu du temps pour obtenir cela. Et présence du prêtre dit certainement assainissement des mœurs et de la foi. Le clergé, dans l'ensemble, malgré quelques indignes, est digne et tranche sur la population. C'est-à-dire que le taux d'indignité est bien moindre que chez les laïcs. Malgré une décadence passagère, lors de la décadence du pouvoir des derniers rois mérovingiens, comme j'ai déjà dit, à partir du moment où le pouvoir royal s'affaiblit, les conciles disparaissent et les mœurs s'affaiblissent également. Les maires du palais, Saint-Carlement et Pépin le Bref vont organiser une aumônerie militaire, car là aussi, jusqu'à présent, bon, il y avait bien des prêtres à l'armée, mais ce n'était pas très ordonné. Les monastères se multiplient. La règle de Saint-Césaire, de la fin du 5e siècle, début du 6e, puis la terrible règle de Saint-Colomban au 6e, et enfin celle de Saint-Benoît, au même siècle, beaucoup plus modérée, sont donc de cette époque. Et les rois fondent un grand nombre de monastères. Dont certains ont duré jusqu'à la Révolution, même quelques-uns ont survécu à la Révolution. On pourrait citer, par exemple, un exemple charmant, le jeune Dagobert, donc le futur roi, poursuivait un cerf. Celui-ci se réfugia dans la petite chapelle de Saint-Denis. Et les chiens ne purent jamais y entrer. Ne purent jamais poursuivre le cerf. Plus tard, le jeune prince, jugeant que son gouverneur était insolent, le fit battre de verges comme un esclave et lui fit couper la barbe par dérision. Devant la colère de son père, le roi Clotaire II, il s'enfuit et se réfugia dans la chapelle de Saint-Denis, se souvenant de la protection que le cerf y avait trouvée. Il s'y endort, et Saint-Denis lui apparaît, lui promettant secours, pourvu qu'il orne son tombeau. De fait, aucun des envoyés de Clotaire II ne put pénétrer dans la chapelle, et le roi pardonna à son fils. Et celui-ci, devenu roi, construisit l'abbaye de Saint-Denis, dont l'église fut consacrée par notre Seigneur lui-même le 24 février 636. L'Église s'organise elle-même à cette époque grâce à l'appui royal depuis Clovis. Immunité d'impôts, déjà à l'époque de Clovis, immunité plus ou moins, mais les choses se sont augmentées au fur et à mesure, mais il y a déjà eu des immunités des Clovis. Immunité d'impôts, de charges, immunité des tribunaux civils. Seuls parfois des évêques sont jugés par le roi pour des cas graves, mais toujours dans un tribunal composé d'évêques, dont la condamnation n'est jamais la peine de mort. Les rois multiplient les donations avec munificence. L'Église des Gaules n'aura jamais été aussi riche de toute son histoire que sous les Mérovingiens. C'est le manque d'argent pour récompenser les fidèles après Poitiers en 732 qui provoquera à partir de Charles Martel et pendant tout le temps carlovingien, malgré les bonnes intentions partiellement réalisées des souverains carlovingiens, des spoliations déguisées. Problème qui ne sera résolu que sous les Capétiens. En attendant, les évêques comprendront la nécessité, patienteront, mais réclameront toujours les droits de leurs églises. En compensation des biens dont ils ne jouissent pas, la dîme, dont les évêques ne jouissent pas, la dîme est imposée par Pépin le Bref vers 755 et Saint-Charlemagne en 794. La dîme date de cette époque. C'est la révolution qui a suivi. Parmi le rôle des rois dans les donations, je voudrais citer un cas qui fait appel à la fois au miracle de la Sainte Vierge et montre que alors à ce moment-là déjà l'intervention des saints s'impose au souverain, même dans les choses temporelles. Le roi Saint-Charlemagne assiégeait en 778 la ville de Lourdes, occupée par un seigneur musulman, Mira, qui avait fait serment de ne se rendre à aucun être humain. L'évêque du Puy, Basile, présent, obtint du roi la permission d'aller trouver Mira. Puisque vous avez juré de ne vous rendre à aucun homme, rendez-vous à une dame très puissante. Dame, je rappelle, c'est le féminin de seigneur. La mère de Dieu qui règne sur le puits et dont le roi et moi, nous nous glorifions d'être les humbles sujets. Faites-vous le chevalier de cette dame. Divinement inspiré, Mira consentit et Saint-Charlemagne confirma le traité. Les actes d'hommage féodal avant la lettre, mais tout à fait dans l'esprit de Lourdes, à Notre-Dame du Puy, devenue dame et suzeraine de Lourdes, furent accomplis jusque sous Charles X. L'Église, de par la volonté des rois francs, a un fort pouvoir. C'est elle qui protège les esclaves et leurs familles, qui favorise leur libération, qui ne rend à leur maître les esclaves fugitifs réfugiés dans les églises que sous serment de ne les point punir, et cela sous peine d'excommunication. C'est à cette époque que le droit d'asile est définitivement reconnu dans les églises. C'est l'Église qui soutient les pauvres, les nourrit, les encadre. Les églises sont centres de vie intellectuelle, artistique, judiciaire, économique. Ce fut à cette époque, à la fin de l'époque carlovingienne, donc la fin de la période qui nous intéresse, que commença le mouvement de la paix de Dieu, à Clermont en 958 par l'évêque Étienne II, et au Puy en 976, par l'évêque Guideux d'Anjou, futur beau-frère du roi Louis V. Mouvement qui s'étendit ensuite sous les premiers Capétiens et fut approuvé en 1095 par le pape, Bénédicte Urbain II, en 1155 par le roi Louis VII de Pieux et en 1179 par le troisième concile du Latran, écuménique du Latran. Mais ça avait commencé déjà sous les derniers souverains carolingiens. L'Église franque et ses rois vont ainsi, génération après génération, unir le pays.